Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parasol et Bord de Loire, votre émission estivale en direct sur Radio Campus Tour 99.5. Nous sommes en direct, il est 11h04 et nous recevons aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le festival à Tour de Bulle qui est donc partenaire de Radio Campus Tour. Il va se dérouler ce week-end, le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, place de Châteauneuf à Tours. Et pour nous en parler, notre invité est monsieur Philippe Septier, qui est donc président de l'association Le Festival à Tour de Bulle. Bonjour.
Bonjour.
Et à la réalisation de cette émission, la bien connue Mélissa. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors nous allons donc commencer par parler du festival qui va donc se tenir ce week-end. C'est déjà la 16e édition du Festival à Tour de Bulle. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du festival? Qui a eu cette idée et comment est née l'idée d'un festival de la bande dessinée à Tours?
Alors, l'origine du festival, elle est assez ancienne, hein, puisque au départ, il y avait une amicale qui s'appelait la TFBD, d'amateurs de bande dessinée et de professionnels de bande dessinée qui se réunissaient chaque vendredi 13. Ça, c'était dans les années 1900, au siècle dernier, dans les années 90. Et voilà. Et puis, au cours de discussion, et moi j'en faisais partie, hein, est apparue l'idée de faire un festival à Tours, et puis le premier festival issu de cette amicale est arrivé en 2001, et pour rebondir sur le Vendredi 13, c'est un festival qu'on a démarré chaque Vendredi 13. Donc c'est très sympa en termes de communication le Vendredi 13, mais en termes de boulot, c'est quand même très variable, puisque certaines années, il y a la possibilité d'avoir 3 Vendredis 13, donc ça veut dire 3 week-ends de festival, dont notamment par exemple février et mars qui se suivent. Voilà, donc ça c'était l'idée de départ. Les noms des festivals variaient à chaque festival.
D'accord.
Alors ça a duré, on a fait ça 3 ans, et puis après je dirais l'équipe de départ de 3 personnes, on était vraiment un peu nombreux, a été un peu fatigué. Et en 2004-2005, il y a une nouvelle équipe qui s'est reconstituée. Et donc là, on a changé un peu de rythme pour revenir à un rythme annuel. Et on a changé de nom aussi. On a choisi d'avoir un nom qui soit toujours le même à Tour de Bulle. Puisque à l'époque, l'association s'appelait le OFF du Vendredi 13. Hein, c'était pour rebondir avec l'idée du Vendredi 13.
D'accord.
Et voilà, donc on est parti en 2005, comme ça, et puis depuis, ma foi, c'est la 16e édition. On a commencé les premières années en juin, parce qu'on avait l'idée de faire un festival qui soit, qu'on a toujours d'ailleurs, qui soit facilement accessible, et donc d'essayer d'aller mettre les auteurs, d'aller au-devant du public, de sortir un petit peu des festivals qui sont enfermés dans un lieu et pour lesquels il faut accéder. Enfin, donc l'idée qu'on a eue, qu'on poursuit toujours, c'est d'aller au-devant du public et de favoriser le plus possible le contact entre le public et les auteurs. Voilà, donc on est parti de cette idée-là. Donc les premières années, on s'est installé Place Plumereau, aux terrasses des cafés. On a eu un succès, c'était pas facile parce que on n'était pas très identifiable. Et du coup, je crois que la cerise sur le gâteau, ça a été le moment au mois de juin de la demi-finale de la Coupe du Monde, de mémoire. Alors ça doit être 2006 peut-être.
Oui, ça doit être ça.
Enfin bref, donc il y avait des écrans géants qui retransmettaient des matchs de football pendant le festival, ce qui fait que là, la place était noire de monde, ce qui est normal.
Ah,
mais
bon,
du coup, et puis voilà, on s'est dit, non, là finalement, c'est pas le bon endroit. Et là, on a émigré Place Châteauneuf depuis cette date-là, et on a choisi le mois de septembre, parce que c'est aussi, il y a moins d'événements, quoi.
Vous avez, j'imagine, au fur et à mesure du temps, depuis déjà 16 ans de ce format, en tous les cas de festival, pris en ampleur. Il y avait combien, sur la première édition, est-ce que vous vous souvenez à peu près du nombre d'auteurs qui étaient là par rapport à cette édition? Est-ce que ça a beaucoup changé?
Alors, pas tant. C'est-à-dire que, je vais dire les choses crûment, mais plutôt que de faire de la quantité, on a toujours essayé de faire de la qualité. Donc les premières années, on était à peu près entre 25 et 35 auteurs 13 ans. Donc les premières années, on a même on a mis les auteurs dehors, d'abord dans la cour de la salle Hockey-Game, puis petit à petit sur la moitié de la place Châteauneuf, puis sur toute la place Châteauneuf. Voilà. La volonté qu'on a eue, qu'on a toujours, c'est vraiment de faire un festival familial et détendu. Faut essayer de créer les conditions pour que ça puisse se faire. On aurait effectivement pu imaginer de passer à peut-être 60 ou 80 auteurs, encore que nos moyens n'auraient peut-être pas permis de le faire, mais de partir dans cette direction-là. Et d'abord, les lieux, c'est compliqué dans les lieux où on est. Mais on a préféré faire d'autres choses, développer des animations, des conférences, des expositions, enfin bref, donner plus de contenu de manière à ce que finalement, quand on vient, et on le voit d'ailleurs, quand on vient seul ou en famille, et d'ailleurs ces dernières années c'était beaucoup en famille, tout le monde puisse trouver quelque chose à faire sur le festival et qui va l'intéresser, et voilà. Et évidemment, pour montrer aussi le travail des auteurs, bien évidemment, mais c'est un petit peu, quand on crée un événement comme ça, moi je pense et on pense qu'il faut qu'on sorte de la traditionnelle séance de dédicace, qui est intéressante aussi, et de la rencontre, mais au-delà, quand il y a des choses, on peut écouter des auteurs parler, on va en écouter d'ailleurs pendant 2 heures samedi après-midi, merci Radio Campus.
Tout à fait, oui.
Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de faire, de susciter l'intérêt pour le travail des auteurs qu'on invite.
Vous avez souligné cette envie de proposer un festival accessible à tous. Je sais que vous faites un grand travail autour de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap depuis un certain nombre d'années. Comment ça se manifeste concrètement sur le festival, toutes ces choses ?
Alors, ça se manifeste... je dirais qu'on a... l'association est donc, s'est engagée dans cette voie dès 2003, donc c'est pas récent, en signant ce qui était à l'époque la charte culture et handicap de la ville de Tours. Et on a toujours essayé de faire des choses qui... d'adapter nos animations ou les spectacles, enfin de prendre en considération l'aspect handicap. Alors là, ça se traduit. Malheureusement, cette année, on a réduit la voilure, mais bon, disons par exemple, l'année dernière, les spectacles étaient... on a des spectacles qui sont doublés en LSF, hein, même cette année d'ailleurs, des lectures. On a aussi, par exemple, l'année où on avait fait, parce que chaque année, le festival a un thème, la gastronomie, on avait aussi la visite de personnes à mobilité réduite ou enfin voilà, donc ça se traduit, on a un accueil pour les sourds, c'est-à-dire qu'il y a dans l'association il y a des personnes qui sont pas interprètes LSF mais signent en LSF. Okay. On essaye d'ouvrir le plus possible. Et puis une année on avait par exemple, avant que la place Châteauneuf et la cour de la salle Hockey-Game soient refaites, mais même, alors c'était une cour en gravillon, alors je vous dis pas pour les personnes en fauteuil là, ou les personnes qui ont du mal à se déplacer, c'était vraiment très très compliqué. Donc on avait décidé d'acheter de la moquette premier prix, quoi, mais pour faire un chemin de manière à ce que les gens puissent se déplacer plus facilement, même si c'était pas parfait, plus facilement. Bon, maintenant le problème se pose moins puisque tout a été refait. Voilà.
C'est alors, plus simple.
C'est des actions. Disons que dans l'idée, on fait pas. On essaye que ce soit pour tous. C'est-à-dire que c'est à double sens. C'est à la fois intégrer les personnes en situation de handicap, mais et pas développer des choses spécifiquement pour elles. Les lectures signées, c'est des lectures auxquelles le public des entendants peut assister. Je veux dire, on mélange les publics, et moi je trouve ça formidable, quoi. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est pour tout le monde. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire.
D'accord. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette affiche qui est donc ici dans le studio, que les auditeurs peuvent retrouver sur votre site internet. Donc l'affiche du festival à Tour de Bulle, je sais que vous avez une sorte de tradition avec les affiches sur les personnes qui les dessinent chaque année. Je vais vous laisser en parler mieux que moi.
Alors, là, on a une petite tradition qui fait que, comment dire, on demande aux auteurs, finalement, on impose peu de choses, mais notamment deux choses. C'est que d'une part, il y a la présence d'un livre, enfin d'une bande dessinée sur l'affiche, et d'autre part, qu'il y a la présence d'un parapluie, un ou plusieurs d'ailleurs. Certaines années, il y en a qui ont fait le choix d'en mettre plusieurs. Alors l'idée de départ, c'était un petit peu parce que c'était pour rebondir sur l'origine du festival qui démarrait un vendredi 13, dit qui dit vendredi 13 dit superstition.
Oui, évidemment.
Qui dit superstition, on va ajouter un petit élément, bon c'est une forme de clin d'œil, et ce parapluie est censé nous protéger de la pluie durant le festival, parce que étant donné que l'essentiel des activités se passe à l'extérieur, on est quand même très très dépendant du temps, et a priori ce week-end... Le parapluie de Stéphane Fer va être efficace, si j'ai bien suivi la météo. Donc ça, c'est... voilà. Et après, on laisse libre cours aux auteurs. On leur donne le thème de l'année, alors qui est cette année est l'âme sauvage, hein, en rapport avec l'album de Stéphane Fer élu Tour d'Ivoire l'année dernière. Et donc, libre à lui... ou à elle, selon les auteurs, d'interpréter ça. Et finalement, en dehors de ça, on a assez peu de choses. Bon, une petite représentation, il y a des options. Une représentation de la ville de Tours, ou quelques éléments qui permettraient d'y faire penser, parce que c'est quand même sympa, là. Donc on voit le personnage, là, cette année, qui, quelque part, vole au-dessus de la ville de Tours, sur son balai, puisque c'est une sorcière. Donc voilà, c'est peu. Mais c'est, finalement, on s'aperçoit à l'usage, au fur et à mesure des années, que les auteurs qui font le visuel de l'affiche, eh ben, ils ont, faut pas trop leur donner de consignes. C'est-à-dire que d'avoir peu de contraintes, voilà, d'en avoir deux, voire trois, puisqu'il faut aussi qu'on dise le festival s'appelle Tour de Bulle, mais peu de contraintes, c'est quand même bien, parce que ça permet pour eux de laisser libre cours à leur
création.
Voilà. Et on aboutit comme ça je pense à des résultats. Moi, les affiches ces dernières années sont vraiment très belles, quoi.
Oui, c'est une très très belle affiche, donc voilà, n'hésitez pas à aller la retrouver soit sur le site internet, peut-être même dans différentes boutiques au centre-ville de Tours, vous pourrez retrouver cette affiche. On va aussi parler, le contexte nous l'oblige, de la situation sanitaire, forcément, parce que qui dit festival en cette fin d'année 2020 dit forcément situation sanitaire. Déjà, on est surpris, oui et non, mais en tout cas heureux qu'un festival puisse se tenir malgré toutes ces circonstances. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le protocole qui est mis en place pour tout le public qui va venir assister au festival ce week-end?
Oui, alors le protocole, on a suivi le protocole qui est même dont la dernière version est du début de ce mois fournie par la préfecture et le ministère de la Culture. Hein. Donc c'est très simple, hein. De toute façon tout le centre-ville, toute on doit être masqué, donc on sera tous masqués, hein. Visiteurs, organisateurs et bénévoles et auteurs, évidemment. Et puis après, on va fournir du gel hydroalcoolique à chaque la place Châteauneuf. Il y a trois entrées sur la place Châteauneuf, donc il y aura du gel hydroalcoolique à disposition à chaque entrée, et puis chaque auteur aura son gel hydroalcoolique, voilà. Donc, et puis il y en aura partout, de manière à ce que tout le monde puisse rentrer chez lui sain et sauf, si je puis dire. Donc après, on a été obligé, du coup, avec la mise en place de ce protocole, hein, de supprimer cette année un certain nombre de choses qu'on faisait les années précédentes, hein, notamment dans les animations. Il n'y aura pas d'atelier jeunesse, il n'y aura pas la maison des jeux de Touraine ne sera pas là, parce que là c'est très très compliqué, trop compliqué à gérer les passages d'objets, cartes,
il faudrait
etc.
tout désinfecter, tout ça.
Mais oui,
c'est
on peut pas,
trop
quoi,
compliqué.
C'est absolument impossible. Enfin bon, on a tous les lieux qui étaient trop confinés, comme Arcade Institute, même si le lieu est formidable et qu'on fait on y fait des choses intéressantes, on peut pas faire quelque chose dedans, quoi, gérer le passage du public, voilà. Donc on va mettre en place des circulations, hein, avec des entrées, des sorties. On va être obligé, on comptera et on limitera les jauges salle au game et dans la cour de la salle au game selon les recommandations de la préfecture. Donc voilà. Et puis il y aura pour les auteurs des files d'attente qui seront organisées avec effectivement du scotch par terre, enfin un signalement par terre pour faire des écarts. Donc voilà. Donc ça va retirer probablement un peu de comment dire du côté festif du festival et assez familial, encore que familial il va pouvoir le rester, mais on va quand même essayer de conserver le côté bon accueil, bienveillant, voilà, on est quand même là aussi pour se faire plaisir. Et pour en revenir à ça, l'idée, enfin pour finir, le choix, la décision finale de faire ce festival, on l'a prise début août. Donc c'est pour dire que on a hésité longuement, retardé la décision, on s'est beaucoup questionné sur la pertinence et sur la charge de travail nécessaire pour le faire, quoi. Voilà. Et par exemple, cette année, on a aussi fait le choix, puisque ça nous est imposé et même recommandé d'inviter moins d'auteurs de manière, comme notre espace est limité,
Pouvoir
par contre de les
espacer.
séparer plus largement. Puis ils ne seront
D'accord.
pas côte à côte, il y aura au moins 1 mètre entre chaque auteur, voilà, pour respecter toutes les consignes
Toutes les normes
sanitaires.
sanitaires. Et les auteurs, on va en parler justement, mais alors on va en parler dans 4 minutes après une petite pause musicale. Donc on parlera des auteurs et de leur travail plus en profondeur. Mais tout de suite, on va écouter Antisocial d'Apollo Brown sur Radio Campus Tour. À tout de suite.
I understand it all too well. It seems to me God is our responsibility. Yeah, that's right. And God's only hope is us. If we don't make it, he ain't gonna make it either.
Yeah.
Pretenders, they all looking like they're the dummy. While niggas flexing, oh, I'm Gucci. The loud mouth talk will never move me, so you can. My nigga, you can. Talk about who all you favors. Talk about your thousand haters. All I need to know is how you built on the front
Love,
line.
Independent, ain't have to look for deals. Work for myself, can't explain to you how good it feels. Got a taste of my own medicine, so I took the pill. Can't walk in my shoes, you niggas can't even foot the bill. I make music you can ride to, smoke cushion chill. Type of music that you gotta be from the hood to feel. For my hustlers in the kitchen that's trying to cook a meal. Kitchen counter full of coke, look like the sugar spill. Reminiscing on them days back when we was youngest. You the one I called anytime I needed something. Now I'm in this courtroom screaming I'll free my cousin. Please tell him take the chains off like Debo coming. I don't argue, triggers talk, bullets big as tennis balls. Put my life in a song, nigga, ain't no pen involved. Since a kid, I've been a star. Treat the game like cops treat a nigga. Won't be satisfied till I kill them all.
You can catch me in the corner, not speaking. In a room full of pretenders, they all looking like they're the dummy. While niggas flexing, know I'm Gucci. The loud mouth talk will never move me, so you can catch me in the corner, not speaking. My nigga, you can. Talk about who all you favors. Talk about your thousand haters. All I need to know is how you built on the front
Love,
line.
Love, kill them all. I put rappers in cemeteries. Then go to your wake and autograph your obituaries. Pass it out to your fam. Kill them niggas that carried you. Drop a bomb in a hole that your family digging to bury you. Just for emergencies, I put a stash in the wall. Now I'm out here pulling strings like I had a guitar. But first I had to ask God. Never drown, cause when it rains, it pours. Just take a sip. But I had my last straw. Take a peek inside my mind. Thoughts scatter like a hoarder's house. Gave birth to your style, but now I got.
gotta abort the child. No killer, but don't push me where I have to react. Friends turned an OJ and left me stabbed in the back. I fill my safe with cash, black card, credit the charge. For them days I used to make a dollar stretch to a yard. I only drive myself crazy when I press my garage. I got whips so big I could put a chef in my car.
You can catch me in the corner not speaking.
In a room full of pretenders, they all looking like Dana Toby. While niggas flexing, know I'm Gucci. The loud mouth talk will never move me, so you can. My nigga, you can. Talk about who all you favors. Talk about your dogs and haters. All I need to know is how you built on the front line.
Nous sommes de retour dans votre émission estivale Parasol et Bord de Loire sur Radio Campus Tours 99.5, toujours avec le président de l'association À Tour de Bulle, monsieur Philippe Septier, qui organise son festival ce week-end le samedi 12 et dimanche 13 septembre, place de Châteauneuf à Tours. Nous allons maintenant parler de l'actu. Nous allons maintenant parler des auteurs de BD dans leur travail, etc. Car nous savons, on a mené quelques recherches à Radio Campus Tours, donc pour préparer cette émission, et on s'est rendu compte que les auteurs de BD étaient donc les auteurs les plus précaires dans la situation la plus précaire en France. On sait que notamment la moitié d'eux gagnent moins que le SMIC et qu'en 2018 on estimait à 36% le nombre d'auteurs qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc c'est un petit peu nos questions, Philippe Septier. Sur les revenus, comment un auteur de BD fait pour subvenir à ses besoins, parce qu'on se rend compte qu'il gagne assez peu d'argent et que plus ça va, moins ils sont rémunérés, mais que dans l'autre sens, le coût de la vie augmente. Donc c'est une situation assez compliquée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire voilà, à ce niveau-là?
Alors, c'est une situation effectivement compliquée. Si on reprend, effectivement, on va dire il y a quelques auteurs très très connus, je ne vais pas citer de nom, mais enfin bon, dont les albums sortent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, je pense que pour eux, ils vivent pas pour certains très confortablement, pour d'autres convenablement, mais effectivement, on voit bien qu'il y en a quand même un certain nombre pour qui c'est pas le cas. Et ces auteurs-là, je dirais que c'est peut-être ceux qui nous intéressent, nous, en tant qu'organisateurs de festival, puisque un de nos objectifs est de proposer des auteurs, de la jeune bande dessinée, comme on dit, c'est-à-dire des auteurs qui ont peu d'albums au compteur, et donc c'est souvent ceux-là qui ont les plus faibles revenus. Il faut savoir que un auteur de bande dessinée est rémunéré la plupart du temps en avance de droit, c'est-à-dire que un éditeur il signe un contrat avec un éditeur. Alors là, c'est très variable selon s'il est seul à faire la bande dessinée, s'ils sont plusieurs, c'est-à-dire un ou plusieurs scénaristes, un ou plusieurs dessinateurs, un ou une coloriste. Chacun signe un contrat et l'éditeur lui avance de l'argent pour faire sa bande dessinée. Donc on comprend bien que, alors c'est pas des sommes colossales, c'est pas 50 000 euros, faut pas. Donc là on est sur quelques milliers d'euros et derrière, notamment, alors les scénaristes, c'est aussi un travail qui est quand même assez conséquent, mais pour un dessinateur, on va dire en moyenne, c'est un album par an.
Ils ne sont pas rémunérés sur leur temps de travail, mais sur un album.
C'est ça, pour un travail, c'est à la tâche, quoi, finalement. Et du coup, on comprend bien que quand on a, 6 000 euros pour un an de travail, c'est quand même assez compliqué pour vivre. C'est ça, et bon, il y a même des éditeurs qui vont encore plus loin, mais bon, ça fait des faibles revenus. Donc certains auteurs font de la bande dessinée en tant que en faisant un autre métier à côté pour pouvoir manger et vivre
forcément,
donc ça rallonge les délais, et ça veut dire qu'en temps de travail ils y passent énormément de temps. Donc ça peut être soit un métier tiers, je ne sais pas moi, enseignant, n'importe quoi, enfin peu importe un métier, X ou Y, soit il y en a pas mal qui font de l'illustration ou qui font dire des illustrations qui sont un peu mieux rémunérées peut-être pour alors magazines, livres, enfin bon, voire sites web, enfin bon, voilà. Donc, ou publicité, beaucoup de publicité.
Des auteurs de bande dessinée qui ne font que ça de leur temps, c'est-à-dire qui se consacrent complètement à la bande dessinée et qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à cette activité, il y en a finalement assez peu.
Alors, c'est oui, il y en a assez peu, il y en a. J'aurais du mal à dire quelle proportion, parce qu'après, chacun y va aussi. Des fois, il y en a qui vivent en famille, quoi. Donc, quelque part, ils ont aussi, ça permet de pouvoir continuer. Et peut-être le conjoint ou la conjointe apporte aussi aide, participe à ce que le métier de l'auteur puisse se faire. Donc bon, il y a énormément de situations différentes. Donc on met globalement, effectivement, être auteur de bande dessinée aujourd'hui, c'est pas une signature, clairement, pour l'immense majorité. Donc voilà. Alors c'est là, il y a eu à ce sujet un grand mouvement l'année dernière des auteurs de bande dessinée pour que leur travail soit mieux reconnu. Ça couvrait plusieurs aspects. D'une part, les relations avec les éditeurs. Qui sont pas toujours simples, puisque là on est comment dire, c'est pas toujours très simple, mais aussi vers d'autres formes, c'est-à-dire que de faire reconnaître le travail qu'ils peuvent faire sur des animations, des festivals, pendant les festivals de bande dessinée ou pas d'ailleurs, à d'autres moments, ce qui ne sont pas ou pas toujours rémunérés. Voilà. Donc il y a eu un grand mouvement. Pour dire les choses, bah, cette année, nous, on a fait le choix suite à ça pour les auteurs qui sont invités sur le festival et qui font des animations, ça fait pas mal d'années que, quand je dis une animation, bah, ça peut être par exemple la soirée d'ouverture au cinéma studio ou une rencontre précise avec du public, elles étaient rémunérées, c'est légitime. Et cette année, on pousse le bouchon un petit peu plus loin en commençant à rémunérer la présence des auteurs pour les séances de dédicaces et donc les rencontres avec le public, parce que on se dit que bon, on le fait modestement, mais on fait le premier pas pour aller dans cette direction, parce qu'effectivement, si on veut aider les jeunes auteurs, c'est ceux qui sont le plus en situation de faibles ressources, oui, de précarité, il faut le faire, quoi. Enfin,
leur permettre de venir, ouais, leur permettre de leur donner l'envie de venir et leur ajouter quelque chose en plus, quoi.
C'est ça. Alors on prend en charge l'ensemble des frais, hein, c'est-à-dire transport, repas et logement, hein, ça a toujours été. Hein. Par contre, là, cette année, on va ajouter un premier pas pour commencer à rémunérer les séances de dédicace. Voilà.
Donc voilà.
Et ce qu'on voulait faire aussi, mais bon, là, c'est pas possible, c'est intensifier les animations pour faire de plus en plus travailler les auteurs, là. Vraiment, ça peut être une visite guidée d'exposition, ça peut être, enfin bon, et on a plein d'idées. Bref, pour les faire travailler, finalement. Parce que c'est aussi un axe de choses. C'est-à-dire que, dès le départ, on a voulu sortir de la simple rencontre où chacun est de chaque côté de la table. Je pense qu'il faut aussi montrer l'intérêt, le travail lui-même, quoi.
D'accord, très bien. Donc ce mouvement, finalement, ce mouvement des auteurs de BD leur a servi. Il y a des avancées, donc vous faites des avancées, évidemment. Est-ce que vous savez si de l'autre côté, il y a eu des avancées, du côté des maisons d'édition, peut-être ?
Alors là, c'est très compliqué.
Peut-être un peu plus long, oui.
Ouais, c'est un peu plus long, parce que forcément, ils sont pas forcément très d'accord, mais il y a des choses qui se font, qui commencent à se faire, peut-être au moins pour les, on va dire, pour les tournées de dédicaces chez les libraires, ou une comment dire, une petite rémunération pour être fait, mais c'est chaque éditeur. Là, il n'y a pas un mouvement global des éditeurs. Il y en a qui sont contre cette idée. Voilà. Donc c'est et puis après, je pense que par exemple les grands festivals Angoulême, Blois, Saint-Malo, etc. Ils vont être aussi confrontés à ce problème. Je ne sais pas comment ils vont le résoudre, hein, parce que Blois, c'est, je crois qu'ils invitent 120 auteurs, hein, donc c'est beaucoup. Hein. Du coup, je ne sais pas trop comment ils vont réagir, mais on voit bien que chez les organismes de soutien, là, que ce soit la SOFIA ou le CNL, on sent bien que eux, ils vont aider, ils sont partis pour aider les gros festivals à rémunérer les auteurs, au détriment des petits comme nous, ou des petits ou des moyens, qui eux ne pourront. Je pense que ce qu'on peut avoir comme subvention de ces organismes va disparaître probablement, quoi.
D'accord, très bien. On va revenir sur le festival en lui-même. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Les auteurs donc viennent pour des séances de dédicaces, etc. Mais il y a aussi une petite compétition qui est en jeu. Il y a un prix qui est en jeu, qui est décerné chaque année. Peut-être que vous pouvez en parler. Donc ce prix s'appelle la Tour d'Ivoire. L'année dernière, donc on a parlé du gagnant de l'année dernière qui a donc pu dessiner l'affiche de cette année. Comment ça se passe concrètement, ce prix, la Tour d'Ivoire? Comment les auteurs sont sélectionnés? Comment ça se passe pour déterminer le gagnant au sein du jury, etc.?
Alors, ça se passe bien.
tant mieux.
Alors, l'idée de départ, puisque je reviens toujours un petit peu aux origines, hein, mais c'était donc, je le répète, de promouvoir la jeune bande dessinée. Du coup, dans l'idée du prix, il y a le fait de promouvoir le travail d'un auteur dont on a apprécié le travail. Le prix Tour d'Ivoire, il est remis par les membres de l'association. Alors comment ça se passe? On a un groupe qui fait une présélection d'auteurs correspondant aux critères, hein, qui sont simples, hein, c'est-à-dire que un auteur s'est sélectionné parce qu'il a au plus édité 3 albums chez un éditeur. C'est-à-dire que les auteurs très connus, on aime bien ce qu'ils leur travaillent, mais on veut nous mettre l'accent sur
un tremplin de lancement un petit peu pour les petits,
c'est
petits
ça,
auteurs.
Pour les auteurs débutants. Voilà. Cette présélection qui est autour d'une quarantaine d'albums est lue par une bonne partie des membres de l'association, et on se réunit une journée, la plupart du temps, mais cette année ça n'a pas été le cas, le jour de la fête des mères, pour voter, enfin, donc élire notre Tour d'Ivoire, hein. Donc c'est très simple, hein. Ceux qui ont lu l'ensemble de la présélection, eh ben on fait un premier écrémage, on garde une dizaine d'albums qui est notre sélection finale, et dans cette dizaine d'albums, eh ben après on vote à bulletin secret. Alors on a un système de points, hein, c'est-à-dire qu'on a 10 points à attribuer. Et on peut mettre au plus 6 points sur un album, et donc on doit mettre choisir 4 albums, on répartit les points, et puis à l'issue de ça, bah, on dépouille, et puis celui qui est élu Tour d'Ivoire est celui qui a obtenu le plus de points.
Donc cette année, la Tour d'Ivoire de cette année est déjà choisie?
Tout à fait. Le jour de la fête des mères, mais on a fait ça en juillet.
Et donc le secret restera évidemment jusqu'à ce week-end.
C'est ça, jusqu'à samedi soir. Du coup, je peux quand même vous donner les 4 finalistes, parce que ça, et vous pouvez vous-même faire un petit pronostic sur le choix des membres de l'association. Donc cette année, les 4 finalistes, c'est le Château des Animaux de Delep et d'Orisson. Un Monde en pièces. Alors, tiens, un album très original en noir et blanc, vraiment des frères gris, je pense que c'est des frères. Nothing Personal, qui est un album entre le manga et le comics, enfin qui est plutôt réussi, de André Bousquet, et puis Fille et Loup de Roch Espinet, voilà, qui est aussi graphiquement intéressant. Donc c'est
les 4 finalistes.
Celui qu'on a. Alors le vainqueur, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais celui qu'on a élu, qu'on a choisi, c'est l'un de ces 4 là.
D'accord.
Alors ça, c'est vrai que c'était le prix qu'on a depuis l'origine du festival, le prix Tour d'Ivoire, et puis depuis 3 ans maintenant, on a un autre prix, oui, qui est le Tour d'Ivoire des Mômes, Parce qu'au départ, l'idée, c'était de ne pas avoir trop de prix, parce que meilleur ça dilue, prix du meilleur scénario, prix du meilleur ceci, de cela, de machin, du truc. Bon, enfin, bon. Donc nous, on a des objectifs assez... des moyens limités, puis des objectifs assez, assez clairs. Voilà. Donc le prix Tour d'Ivoire des Mômes, lui, on s'est dit que le meilleur moyen pour couronner une BD jeunesse, c'est que ce soit les... les enfants qui l'attribuent. Donc on a des membres de l'asso, là, font une présélection de 4 albums qui est proposée au vote d'enfants de 6 à 13 ans. Donc là, bon, habituellement, on passait par l'intermédiaire de libraires, médiathèques, bibliothèques, voire CDI, etc., pour organiser des lieux de vote. Mais cette année, ma foi, c'était un petit peu compliqué. On a mis en place un vote électronique. Et puis, on dépouillera tout ça dimanche midi, en direct hein, et en public. Et puis, on annoncera le vainqueur dimanche midi. Voilà. Donc là, l'année dernière, il y avait eu un peu plus de 500 votants, quand même. Donc, c'est plutôt... on est content, quoi. C'est un chiffre conséquent. Cette année, je ne sais pas. Probablement un peu moins, puisque il y aura moins de... voilà. Et puis, dernier prix, qui est un nouveau de cette année.
D'accord.
On aime bien... on aime bien faire des nouveautés aussi, qui a un prix qui s'appelle « À l'ombre de la Tour d'Ivoire », qui là aussi appartient à une présélection d'albums faits par des membres de l'association, mais des visiteurs et visiteuses de prison, et des membres de la, comment dire, du pénitencier, de l'administration pénitentiaire, voilà, je vais y arriver. 4 albums ont été présélectionnés, ont été donnés à lire à... aux détenus de la maison d'arrêt de Tours.
D'accord.
Et donc, ces détenus ont voté. Donc, je ne connais pas le résultat. On va le dépouiller là aussi dimanche midi, en direct, salle que game. Et puis, on annoncera le résultat. Voilà. Donc, ça part dans l'idée aussi que, il n'y a pas de. Puisqu'on parlait des personnes en situation de handicap là tout à l'heure, c'est que pour nous, la BD, c'est partout, pour tous, c'est tout le temps. Quoi.
Ça touche tout le monde.
Donc. Il faut essayer d'aller dans des endroits qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, et puis on apporte notre petite pierre à l'édifice, mais pour faire que bah, tous les publics aient aussi un accès à la bande dessinée.
Juste une petite question avant d'enchaîner sur une nouvelle pause musicale. Vos prix s'appellent la Tour d'Ivoire, mais alors d'où ça vient ce nom ? Pourquoi ce nom ?
C'est un secret.
C'est un secret ? On n'aura pas la réponse.
Non, non. En réalité, je ne sais plus trop comment c'est venu. Alors il y avait, comment dire, il y avait un peu l'idée que, parce qu'au début, initialement, le prix il était un peu moins formalisé que... que maintenant, hein, dans son élection. Et il y avait l'idée que bah, c'était un groupe de quelques personnes. Au début, on devait être 6 ou 7 à se réunir et à choisir un album à partir d'une présélection, là, pour le coup, beaucoup moins importante. Et puis, il y avait l'idée de, on est dans une tour d'ivoire, puisqu'on se réunissait dans un lieu fermé. Et voilà, bon. Et puis, c'était rebondir sur la ville de Tours. Enfin, voilà. Un petit jeu de mots qui n'est peut-être pas terrible, mais finalement, on l'a gardé, on n'a jamais changé. Et puis, voilà. Et effectivement, ça attire les questions. Et j'ai pas de réponse précise.
Ça restera un petit peu un mystère pour nous
tous. C'est ça, voilà.
Donc tout de suite, on va enchaîner sur une nouvelle pause musicale. On va écouter Divorce à l'italienne de Mungos Ify et Martina P. Et on se Marina P, pardon, et on se retrouve juste après pour parler de la programmation du festival. A tout de suite.
And that's all.
retour dans votre émission estivale Parasol et Bord de Loire en direct sur Radio Campus Tour 99.5, toujours avec Monsieur Philippe Septier, le président de l'association À Tour de Bulle qui tient son festival ce week-end, samedi et dimanche, place de Châteauneuf à Tours. Alors on avait une discussion hors antenne que j'aimerais poursuivre un petit peu et partager à nos auditeurs, qui concernait donc la place des autrices de bande dessinée dans votre festival. C'est une place importante, c'est quelque chose que vous voulez développer, leur donner de la visibilité, c'est ça ?
Oui, absolument. Il y a eu, pour dire les choses, là, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être entre 15 et 20% d'autrices par rapport aux auteurs. Alors le terme autrice lui-même... Je ne vais pas en définir l'origine, mais bon, c'est pour un grand nombre de femmes auteurs, c'est le souhait qu'on les appelle autrices. Donc voilà. Donc nous, on s'est dit aussi que je pense que ça amenait, en termes de contenu, en termes de pour aborder des sujets ou des thèmes, du graphiquement, vraiment. Quelque chose de peut-être différent, et ça fait maintenant au moins 5 ans qu'on essaye d'avoir un équilibre entre le nombre d'auteurs et d'autrices. Bon, alors c'est pas toujours facile ni réalisable, mais par exemple cette année, donc parmi nos invités, on a un tiers d'autrices et deux tiers d'auteurs. Mais c'est bien, je trouve que ça donne un bon équilibre et puis que ça met en lumière le travail de jeunes auteurs. Alors bon, c'est peut-être vrai dans des générations plus anciennes que le nombre de femmes auteurs était plus faible. Encore qu'il y a des très grands noms, hein, je pense à Bretécher par exemple. Maintenant, ça dans les générations plus jeunes, c'est moins vrai. Et donc voilà, on a aussi envie de mettre l'accent sur leur travail.
Ouais, et d'amener au fur et à mesure.
Je crois que un des déclics, et c'est arrivé un ou deux ans après. Qu'on ait commencé à faire ça, c'est que quand à Angoulême, il y a 3 ans, ils ont présenté leur liste sur 40 albums de l'année, il n'y avait aucune femme. Ah, on s'est dit, là, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ouais. Je crois qu'ils se sont fait étriller à juste titre. Voilà. Nous, c'est une des choses, quand je parlais de la BD pour tous, c'est aussi de tous. Hein.
C'est quelque chose autour duquel vous travaillez en tous les cas.
Ouais, clairement.
Très bien. On va revenir sur donc le prix La Tour d'Ivoire qu'on évoquait juste avant cette pause musicale. Les gagnants de l'an passé seront mis à l'honneur sur le festival, donc on a parlé de l'affiche, mais ils vont aussi avoir le droit à leur exposition. Donc comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on pourra y trouver dans ces expositions qui sont donc dans des salles juste à côté de la place Châteauneuf, si je ne m'abuse?
Oui. Ça fait partie de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut mettre le travail de jeunes auteurs en avant. Pour le coup, celui qui est Tour d'Ivoire, du prix Tour d'Ivoire, on n'a pas nous des moyens financiers nous permettant de donner un prix financier comme peut le faire Angoulême par exemple. Donc nous, on fait autrement, c'est-à-dire qu'on prépare, on propose à l'auteur Tour d'Ivoire de faire le visuel et l'ensemble des visuels du festival l'année suivante. On prépare une exposition en collaboration avec lui sur l'album concerné, sur son travail. Et puis, d'autres choses, évidemment, on le met en avant au travers des visuels, mais qu'on fera pas cette année. Il y avait par exemple une visite commentée de l'exposition pour lui. Enfin bon, on essaye d'organiser un certain nombre de choses ou d'animations ou de productions. Quand il fait l'affiche, il est bien évidemment rémunéré. Enfin bref, pour mettre en avant son travail. Donc cette année, c'est Stéphane Fer, hein, qui a été Tour d'Ivoire 2019 pour Peau de mille bêtes. Un album vraiment magnifique. Honnêtement, c'est vraiment très très beau, et puis le contenu est intéressant. C'est l'adaptation de Peau de mille bêtes, dont a été tiré Peau d'âne, qui est un conte allemand du XVIIe siècle de mémoire. Voilà. Mais c'est vraiment très très intéressant et très beau. Et puis Stéphane est vraiment quelqu'un de très sympa et qu'on est très content d'avoir couronné et qui sera là. Donc vous pourrez le rencontrer.
Voilà, n'hésitez pas à aller le rencontrer en dédicace, j'imagine qu'il sera en dédicace.
En dédicace, tout à fait.
Voilà, malgré le contexte sanitaire, les dédicaces sont maintenues tout de même.
Oui, tout à fait, avec des contraintes.
Forcément des normes, évidemment.
Ouais.
Et donc nous sommes donc sur Radio Campus Tour, et Radio Campus Tour est partenaire de l'événement. Vous pourrez même retrouver Radio Campus Tour en direct de l'événement. C'est samedi de 15h à 17h, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pourriez nous dire assez rapidement ce qu'on va retrouver à l'antenne, ce qu'on va entendre à l'antenne ? C'est les membres de l'association qui vont animer cette émission, d'ailleurs ?
Oui, absolument. Donc là, on fait une émission pendant 2 heures du direct. Alors, ça correspond aussi au souhait, comme je le disais tout à l'heure, de montrer le travail et de faire parler les auteurs de leur travail. Donc l'idée, c'est que par les membres de l'association, vont avoir une discussion à bâton rompu, si je puis dire, d'une vingtaine de minutes par groupe, donc des groupes de 2-3 auteurs, avec des thèmes en commun, on pense, ou carrément peut-être des fois complètement opposés, mais c'est intéressant aussi. Et puis, on va essayer de parler de leur travail, ou même de ce qu'ils pensent, du pourquoi, ça peut être intéressant, ou de ce que leur travail, de ce que la vie actuelle leur a fait penser, l'idée de départ de leur travail. Donc voilà. Donc c'est un moyen de faire parler les auteurs et de comprendre un peu pourquoi, comment. Je crois que dans une bande dessinée, on voit souvent le produit fini qu'on lit plus ou moins rapidement selon chacun, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer pourquoi il a fait ces choix-là, qu'est-ce qu'il voulait montrer ou qu'est-ce qui l'a inspiré. Voilà, par exemple, pour citer un exemple, donc on a une soirée d'ouverture qui est au Cinéma Studio, à qui on a donné une carte blanche à Étienne Leroux, qui a choisi un film qui est To Be, qui est un film en noir et blanc de 1942, mais qui l'a inspiré graphiquement et sur les séquences pour son album. Voilà, c'est aussi montrer les sources d'inspiration. Donc je pense que faire parler les auteurs, là, on a donc 2 heures de direct, faire parler les auteurs, c'est intéressant, quoi. Ça apporte un vrai plus à comprendre ce qu'on lit. Je crois que c'est de la même manière que quand on va au cinéma et qu'on voit un film, on voit un produit fini, mais ça peut être intéressant de voir ou d'écouter les acteurs ou le réalisateur ou le scénariste parler de pourquoi ils ont fait ce choix ou qu'est-ce qui les a...
Tout le cheminement qui ouais, précède.
Voilà, c'est le cheminement intellectuel. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus, quoi, qu'il faut apporter.
Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver l'émission en direct sur Radio Campus Tours samedi soir. À noter aussi que l'association à Tours de Bulle n'est pas étrangère, loin de là, à Radio Campus Tour. Vous pouvez retrouver chaque samedi, chaque premier samedi de chaque mois, donc c'est une émission mensuelle, l'émission Coup de Bulle, qui est proposée de 15h à 16h en direct sur Radio Campus Tour. Donc voilà, n'hésitez pas, pour vous pencher sur l'actualité de la bande dessinée, vous intéresser à toutes ces émissions. Maintenant, nous allons parler donc d'un éditeur qui sera présent sur le festival, que vous avez invité sur le festival, pour savoir un petit peu ce qu'il vient faire ici et ce qu'il va présenter. D'un point de vue pratique.
Alors, chaque année, depuis pas mal d'années, on invite un jeune éditeur aussi. Il y a de grandes, très grandes maisons d'édition, Darko, Delcourt, Glénat, etc., j'en passe, dont la production est très intéressante, mais là aussi, nous, on cherche à montrer le travail d'éditeurs plus petits, voire naissants, ils viennent montrer leur travail parce qu'ils ont un peu moins de possibilités de le faire. Donc cette année, on a choisi une maison d'édition qui s'appelle Des Ronds dans l'eau, dont il y aura plusieurs. Comment on fait ? C'est-à-dire qu'on dit à l'éditeur, écoutez, nous on vous invite, vous venez, on vous laisse un lieu. Enfin, pour dire une table, et vous pouvez présenter votre production et vous choisissez vous-même des auteurs dont vous souhaitez montrer le travail. Voilà. Donc c'est aussi intéressant parce que c'est l'angle d'un éditeur qui a fait un choix éditorial là pour le coup. Et là, des ronds dans l'eau, il y a vraiment des choses très très différentes. Je pense à Lily qui sera là, qui va proposer sa bande dessinée autour de la grossesse, mais Armel Modéré qui fera le dimanche après-midi au Cinéma Studio une rencontre avec le public jeunesse qui est aussi dans la même maison d'édition. Donc il y a des choses comme ça qui se font. Et pour nous, c'est un complément jeunes auteurs, jeunes maisons d'édition. enfin, ou petite maison d'édition, parce qu'elle peut être un peu plus ancienne, mais...
Ouais, toujours dans cet objectif de permettre de donner de la visibilité à des, voilà, à des gens qui en ont besoin. On parlait tout à l'heure de l'aspect multigénérationnel, si je puis me permettre, de la bande dessinée par son aspect visuel. Et donc, dans cette optique, tout au long du week-end, vous allez proposer des événements destinés aux enfants. Donc, vous avez dit peut-être un petit peu moins que d'habitude, forcément, dû à la situation sanitaire. Mais je sais que notamment, il y aura des lectures de BD à haute voix ou alors des lectures signées qui permettent à tout public de profiter de la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer ou nous donner quelques modalités concernant tout ça?
Alors là, du coup, cette année, c'est vrai qu'on a pu ne conserver que tout ce qui était sans contact. Donc effectivement, toutes les animations, on avait comment dire, du maquillage, on avait des fresques, enfin on avait plein de choses, des cours de bande dessinée, des choses comme ça, tout a malheureusement ne peut pas avoir lieu. Par contre, effectivement, des lectures, qu'elles soient signées ou non. Bon, on avait aussi des jeux de pistes qu'on a malheureusement dû abandonner aussi. Enfin bref. Donc l'idée, bah, c'est que on puisse, comme je le disais aussi, c'est que on vient passer un moment en famille, un bon moment, et tout le monde peut trouver du plaisir. Alors, on a aussi mis en place depuis plusieurs années une séance de dédicaces limitée aux enfants le dimanche matin. Parce que on s'est aperçu que il y avait des fois des auteurs, des adultes qui, parce qu'ils aimaient la bande dessinée, la production jeunesse d'un auteur, bah, essayaient de griller la place aux enfants. Enfin bref, on a même qui nous ont écrit pour se plaindre. Enfin bon, voilà. Donc voilà, dimanche matin, voilà, c'est interdit aux adultes pour les auteurs jeunesse, et puis comme ça, ça va donner d'abord une ambiance plus familiale, on est le dimanche matin, c'est plus tranquille, moins stressé, et puis comme ça, bah, pour les enfants, permet d'avoir un vrai bon contact avec l'auteur, et je pense que les auteurs apprécient aussi ça, d'avoir comment, un contact direct avec avec les enfants, quoi, bon, qui sont, selon ce qu'ils ont comme album, plus ou moins grand, mais non, ça c'est un vrai plus. Donc on essaye de développer cette partie familiale, parce que l'année dernière, on s'est aperçu, enfin ça faisait plusieurs années, on a essayé de le mesurer, il y a à peu près deux tiers des gens qui sont venus nous rendre visite, de nos visiteurs, d'après les sondages qu'on a fait, qui sont venus en famille. Et quand je dis famille, même des fois trois générations. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. C'est-à-dire qu'on réussit à intéresser plein de gens qui viennent passer un bon moment et repartir avec des bandes dessinées. Moi, je peux pas trouver mieux.
Ouais,
quoi.
Pour vous, c'est l'idéal, quoi.
Mais oui, parce que on passe un bon moment, qui laisse de bons souvenirs. Et ma foi, c'est bien, quoi. C'est aussi ça, hein, je veux dire.
C'est gagnant pour tout le monde. Ça permet aux auteurs de montrer leur travail. C'est vraiment quelque chose de très positif. Le festival sort également de sa bulle, d'un point de vue à animation et programmation, car il y a évidemment beaucoup de choses tournées autour de la BD, tout tourne évidemment autour de la BD, mais on voit aussi qu'il y a d'autres supports que la bande dessinée, notamment des spectacles, des animations musicales et même des projections de films. La bande dessinée, c'est donc des inspirations diverses et c'est un petit peu, ça regroupe un petit peu tous les secteurs finalement, tous les secteurs de la création et de l'art.
Alors, oui. Alors il y a des secteurs qui sont plus facilement proches. Je pense au cinéma. Pendant longtemps, on parlait de la bande dessinée par rapport à la littérature. Bon, pour moi, non, ça n'a. Enfin, je vais pas dire que ça n'a pas de rapport, mais le média le plus proche, c'est quand même le cinéma. Et c'est pour ça qu'on a cette séance d'ouverture, cette soirée d'ouverture au cinéma studio.
Donc, qui sera vendredi soir, c'est ça ?
C'est ça, vendredi soir à 19h30 au cinéma studio. Parce que beaucoup d'auteurs font aussi du cinéma à leur manière, enfin, en préparant des storyboards, en faisant des choses comme ça, ou des recherches de personnages. Il y a des vrais liens. Et puis, le deuxième univers, et là, c'est plus par les choix de chacun, il y a beaucoup d'auteurs qui sont aussi musiciens, dans des groupes divers et variés, et c'est pour ça qu'on a aussi des spectacles, de la musique depuis longtemps pendant le festival, mais on s'aperçoit qu'il y a des liens avec beaucoup de choses, et c'est intéressant de tisser des liens. Cette année, par exemple, le petit spectacle, comme on ne peut pas être dans la salle Hockey Game, ce sera une déambulation par Lily Manivelle, qui est une musicienne qui est venue l'année dernière, il y a 2 ans, et avec qui on avait fait un concert dessiné. C'est-à-dire, elle chantait pendant qu'un auteur dessinait. Et d'accord. Donc, voilà, c'est aussi. On essaye de provoquer des choses comme ça.
Ok, donc on pourra retrouver sur le festival évidemment d'autres stands qu'on n'a pas évoqués, mais on peut en parler assez rapidement, notamment BD Lire qui sera là donc pour vendre des BD évidemment. L'association aussi aura un stand pour vendre des affiches, des t-shirts à l'effigie de l'événement. Donc je vais redonner, je pense, les informations pratiques parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, malheureusement. Donc n'oubliez pas le festival à Tour de Bulle qui se déroulera le samedi 12 et le dimanche 13 septembre 2020, place de Châteauneuf à Tours. L'entrée est gratuite, il faut venir masquer au festival. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site atourdebulle.fr. Et le vendredi 11 septembre, la soirée d'ouverture au Cinéma Studio à 19h30. Voilà, j'ai donné à peu près toutes les infos pratiques, je pense. J'ai oublié des choses ?
Non.
Non, c'est parfait. Avant de nous quitter, est-ce que, monsieur Philippe Septier, vous pouvez nous donner un conseil BD à nos auditeurs, lié au festival ou non d'ailleurs, mais en tous les cas, votre conseil BD du moment ?
Ah bah, je crois que bon, je vais parler de l'album de Stéphane Fer, moi que j'ai trouvé formidable, Peau de mille bêtes. Sinon, parmi les conseils BD, moi j'ai beaucoup aimé une de nos anciennes invitées d'honneur, Shadiel Ouest-Lati, là, qui revient cette année pour les deux albums Famille Nombreuse et puis Mais nos vacances au bled, mais là qui sort une petite bande dessinée autour du harcèlement sexuel. Et ça sera intéressant d'en parler avec elle, je pense, dans un genre complètement différent, Titouane, qui sera là avec son scénariste Ronald Pellicer, qu'on a comme première date de sa tournée autour du travail sur le Charles de Gaulle, je vais y arriver, mais qui est absolument magnifique et qui est très intéressante, qui avait fait des albums sur la brigade du 36, enfin bon, vraiment, c'est là, voilà, mais il y a plein de choses, venez, et puis, tu parlais de la librairie BD Lire, il y a aussi Cultura qui sera là, et donc, allez voir, et vous allez trouver, on essaie d'avoir une proposition large et variée, vous allez trouver des choses qui vont vous plaire dans les auteurs et autrices qui sont présents.
Donc n'hésitez pas à venir au festival. Merci beaucoup, monsieur Philippe Septier, d'être venu. Et pour finir, le mot de la fin, Mélissa, le mot de la fin pour cette émission. Attention.
Eh bien, j'y vais de mon conseil BD, moi aussi, après tout, il n'y a pas de raison. Donc moi, évidemment, j'aimerais beaucoup dire un mot d'un autre album que l'on doit à Stéphane Fer, donc, qui s'appelle Morgane. Et je pense d'ailleurs que vous en avez parlé dans votre émission Coup de Bulle, voilà, donc c'est, on peut dire que c'est le mythe du roi Arthur, la table ronde et la méchante, entre guillemets, fée Morgane, qui est revisitée ici par Fer et Kansara, et donc c'est très intéressant parce que là, puisqu'on parlait d'auteurs femmes ou d'autrices, là, on voit aussi une autre place qui est donnée à Morgane, et on découvre en tout cas dans cette renarration qu'elle a été dépossédée de son royaume, donc elle a peut-être quelques raisons d'être en pétard après le roi Arthur, et c'est intéressant puisque c'est des personnages féminins qui sortent de l'ordinaire, en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on a une guerrière qui se bat, on peut juger dans son bon droit, et c'est vrai que pour ce qui est des illustrations, des dessins de Stéphane Fer, on a vraiment un univers qu'on retrouve aussi, je pense, hein, dans l'ouvrage ou même sur l'affiche, où il y a un jeu autour du clair-obscur. Donc cet album-là, il est presque en CMJN, en fait. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose, Philippe Septier.
Non, mais c'est effectivement un très très bel album. Et déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il est, il était très bien placé dans la liste des Ivoirables. Voilà. Mais ce qui est formidable, c'est aussi effectivement cette réinterprétation des contes. Et puis on sort un peu de la vision Walt Disney. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on revient plus à la vérité des contes de départ. Hein. Voilà, c'est ça qui est bien.
Merci beaucoup. Restez sur Radio Campus Tour 99.5 pour la suite de cette émission que vous pouvez retrouver toute la semaine Parasol et Bord de Loire pour sa dernière semaine. Et dès lundi, vous retrouverez la grille normale, si je puis dire, avec vos émissions La Méridienne, Sortez et le Ghetto Blaster tous les jours sur Radio Campus Tour.
Bonjour à tous.
Merci à tous et bon après-midi.
Merci.